Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jacques d'Arc, le 1er juin 1988.
Pourrait-on dire qu'il existe des relations de raison parce que la relation affecte un sujet par l'intermédiaire d'un fondement, alors que la qualité ou la quantité affecte un sujet directement. En effet, il semble que ce fondement de la relation soit une quantité, soit une qualité, soit une action, soit une passion, soit un mouvement, puisse être formalisé, abstrait, coupé du sujet. Dès lors, le sujet existant étant mis entre parenthèses, le fondement pourrait servir de support à ce qui deviendrait une relation de raison. Oui, sûrement, hein, que la relation, alors c'est savoir la cause, hein, la relation peut être une relation de raison grâce à la médiation du fondement. Ça, c'est sûr. C'est la médiation du fondement qui permet à la relation d'avoir cette sorte, on ne peut pas dire d'autonomie, parce que c'est une dépendance, mais de se libérer du sujet. C'est ça que je veux dire. À cause du fondement. C'est très curieux. Elle peut donc être indépendamment du sujet. Le sujet est source d'existence. Le sujet, c'est la substance. Comprenons bien. C'est le todeti. C'est la substance première qui existe, qui est source d'existence. C'est la substance qui donne l'existence à tous les accidents. La substance donne l'existence au fondement et par le fondement à la relation. Mais puisque il y a l'intermédiaire du fondement, il peut y avoir une sorte de séparation de la relation par rapport au fondement, par rapport au sujet. Ce qui permet à la relation d'être une relation de raison. Oui, alors, ça, on voit comment le fondement permet à la relation de se séparer. Et ça ne me dit pas le pourquoi. Ça montre que ça peut exister comme ça. Et que si il y a relation de raison, parce que c'est un fait, on constate qu'il y a des relations de raison. Je ne l'invente pas. Je constate. Je constate que l'universel est une relation. Et que l'universel n'existe pas. Je constate que l'amitié est une relation et que l'amitié existe. Donc, je constate, ça, ici, je fais la philosophie de la chose, hein, avant de s'y mettre. Et c'est bien. Je constate donc les deux. Je constate, il y a des relations de raison, il y a des relations réelles. Ça, je crois que je ne peux pas le nier. Je constate l'universel. Personne ne peut nier l'universel. Champ est un terme universel. Homme est un terme universel. Je constate donc il y a un terme universel. L'universel est un être de raison. La n'avez jamais vu l'universel. Vous n'avez jamais touché. Vous n'avez jamais dit l'universel existe. Et puis vous constatez, l'amitié existe. Et l'amitié est une relation. C'est très débile, l'amitié, oui, c'est une relation. Pourtant, c'est une finalité. C'est parce que c'est si débile que ça peut être une finalité. Quantitativement. Alors, vous constatez donc qu'il y a relation de raison et relation réelle. Vous voyez, la relation peut être une relation de raison parce qu'elle a un fondement. Si elle n'avait pas de fondement, elle ne pourrait pas être une relation de raison. Parce qu'elle inhérerait tout de suite au sujet. Alors, pourquoi la relation peut-elle s'isoler de l'existence? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir une modalité d'être? Parce que la relation est un prédicament. Comment se fait-il qu'une modalité d'être, ou pourquoi une modalité d'être peut s'isoler de l'existence? Peut s'isoler de l'acuité. Peut-être une raison qui est uniquement une raison de raison. Une forme de raison. Donc qui n'existe pas. Comme c'est curieux, vous voyez, ça montre qu'il peut y avoir une certaine forme qui soit, qui n'existe, certaines formes qui soient formes purement par mon intelligence. L'intelligence peut créer des formes qui n'existent pas réellement, qui n'existent que dans l'intelligence. Elles sont dans l'intelligence. C'est la seule chose que l'intelligence peut créer. Mais c'est ça qui est très important. Parce que ça justifie l'art. Ça justifie l'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre artistique? C'est inventer une nouvelle relation. Dès que vous inventez une nouvelle relation, vous faites un nouvel outil, vous faites une œuvre d'art, un tissu de relation. C'est ça une œuvre d'art. Un tissu de relation qui est pensé. Toute la création repose sur la sagesse de Dieu. Et toute l'œuvre d'art repose sur l'intelligence de l'artiste. L'œuvre d'art est réelle grâce à la matière dans laquelle elle s'incarne. Autrement, elle serait un tissu de relation. Alors, ça fait comprendre, vous voyez, la possibilité d'une philosophie idéaliste qui est au fond une hypostase des formes. Qui est au fond une hypostase d'une œuvre d'art. J'identifie l'œuvre d'art et la réalité. C'est ça l'idéalisme. Je ne vois pas les différences entre les deux. Je ne fais pas de distinction entre la sagesse de Dieu et toutes les combinaisons que moi je peux faire. Et ça fait comprendre en définitive l'ordinateur. L'ordinateur serait impossible s'il n'y avait pas de relation de raison. Ça, c'est sûr. Tout le fondement de l'ordinateur, c'est la relation de raison. Mais c'est pour ça que c'est capital si je veux comprendre ça. Si je ne comprends pas ça, je tomberai dans une sorte de positivisme. N'existe que ce que je touche, que ce que je vois. Et je ne comprendrai pas la possibilité de construire un monde au-delà de ce monde que je touche, que je vois, et qui est uniquement pensée. Je ne comprendrai pas la séduction énorme de mon intelligence qui construit un tissu de relations. C'est ça que c'est très beau quand Merleau-Ponty dit que l'être, c'est un tissu de relations. Je trouve que c'est là l'idéalisme qui prend parfaitement conscience de ce qu'il est, un tissu de relations. Le monde a un tissu de relations. C'est ça le monde. Quand il n'y a que ça, c'est très très curieux que Dieu ait laissé la possibilité à l'intelligence humaine de posséder une catégorie, une modalité de l'être. Parce qu'au fond, c'est ça. En définitive, dans un regard de sagesse, le pourquoi de la relation. Pourquoi Dieu a-t-il permis, a-t-il voulu que la relation existe? Et en faisant la relation, Dieu permet à l'intelligence humaine de construire son monde. Dieu permet à l'homme d'être artiste, de faire une œuvre qui n'est pas un plagiat, mais qui est quand même quelque chose de propre à l'homme, qui n'est pas directement de Dieu. L'œuvre d'art, petite fille de Dieu. Vous voyez bien, il faut un fondement intermédiaire, qui est l'action de l'homme. L'action de l'homme permet l'œuvre d'art qui n'est pas directement de Dieu. Et c'est quelque chose. Ça existe. Très curieux, c'est très mystérieux, hein. C'est de saisir ce que représente la relation avec sa possibilité de s'isoler du monde réel. La relation s'isole, se sépare du monde réel. Elle n'est plus partie. Tandis que toutes les autres catégories sont relatives au sujet, donc sont parties. La relation, une possibilité d'indépendance, une possibilité d'anarchie, une possibilité de séparation, de tourner le dos à la substance. Aucune catégorie ne peut tourner le dos à la substance. Aucune autre catégorie ne peut être anarchique. Seule la relation peut être source d'anarchie. Se séparer. Et elle reste formellement une relation. C'est curieux, ça. C'est un fait. Il n'y a qu'à réfléchir. Toute anarchie relève sur la relation qui prend son indépendance en devenant une relation de raison. Il faut réfléchir là-dessus. C'est peut-être par là, vous voyez, qu'on entre dans ce domaine tout à fait particulier de la relation. C'est par là que vous comprendrez ce qu'on disait la dernière fois, blanc, blancheur, relatif, relation. Comment la blancheur reste l'abstrait du blanc, mais dans sa signification, ne s'isole pas du réel. Tandis que la relation, dans son abstraction du relatif, peut s'abstraire complètement du réel, se séparer du réel, et être une relation de raison. Et parce qu'elle peut être une relation de raison, elle peut être au cœur de toute une philosophie idéaliste. Vous ne pouvez pas faire une philosophie idéaliste à partir de la blancheur. Vous ne pouvez pas faire une philosophie idéaliste à partir de la qualité, à partir de la quantité. Vous pouvez le faire à partir de la relation. Et la séduction de la relation, puisque ça nous permet de nous libérer. Ève a été séduite par la relation. Est-ce que tout péché grave ne repose pas fondamentalement sur une relation de raison? Je vous pose des questions, hein, parce que je crois qu'il faut creuser tout ça pour comprendre cette chose très curieuse, métaphysiquement, vous voyez. Métaphysiquement, la possibilité du péché repose sur la relation de raison. Semble bien, puisqu'on se sépare de sa source. Or, le propre, l'anarchie possible au niveau métaphysique, c'est la relation. Donc, c'est source de toutes les autres anarchies. La possibilité de la désobéissance, c'est relation de raison. Alors, exalter la relation de raison, elle vous donne la possibilité de désobéir. S'il n'y avait pas de relation de raison, vous ne pourriez pas désobéir. Alors vous allez me dire, donc, la relation de raison, c'est la gare de triage pour la liberté. Et qu'en définitive, c'est le fondement de la liberté. Je ne conclus pas, hein, je pose des questions. Je crois que c'est très important, c'est très très important. Je me souviens que lorsque j'avais fait la philosophie de l'être de raison au Saulchoir, devant cet étudiant qui avait été marxiste jusqu'à 26 ans et élevé dans un milieu marxiste, quand je lui ai parlé de la relation de raison, il est venu me voir après le cours. Père, revenez là-dessus, parce que je suis persuadé que c'est pour moi la seule manière de comprendre l'erreur fondamentale du marxisme. Ça m'avait beaucoup frappé. Je ne l'avais pas dit. Je crois que c'est le fondement de la dialectique. L'analogie repose sur la qualité existante. La dialectique repose sur la relation de raison. Tout le jeu des relations de raison. Hein? Là, je vous donne une matière à penser. Ça va très très loin. Hein? Ça n'a l'air de rien, hein, puisqu'on dit, oh là, on va... Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? En théologie, on se posait la question, est-ce que les anges ont des relations angéliques de raison? Ou est-ce que c'est le propre à une intelligence raisonnante? L'ange peut pécher. Donc, l'ange est libre. Donc, alors comment une intelligence angélique peut-elle penser une relation de raison? Est-ce possible? C'est intéressant comme question, ça n'a pas l'air du tout, hein. Ça a l'air d'être complètement farfelu. au plan météorologique. Mais je crois que c'est quand même très important. Si vous voyez, parce que ça montrerait bien, que c'est le propre d'une intelligence créée de forger des relations présentes. Ou est-ce que c'est le propre d'une intelligence raisonnante? Alors on devrait dire une relation d'intelligence et pas de raison. Mais quand on dit de raison, on veut dire aussi d'intelligence. Ça, c'est intéressant comme question. Est-ce que la création d'une relation de raison, est-ce que c'est propre à l'intelligence créée ou à l'intelligence raisonnante? Et ça ne peut se résoudre que dans un jugement de sagesse. Mais c'est beau comme question. Autrement dit, est-ce que Dieu, en créant un esprit, en voulant qu'un esprit soit créé, en voulant qu'il y ait des êtres spirituels créés, par le fait même, accepte le risque de la relation de raison? Et par le risque de la relation de raison, prenant le pas sur la relation réelle, le risque de l'anarchie, du cancer, de l'intelligence, du cancer éthique, le péché, du cancer biologique. Tout reposerait sur la relation de raison. Il faut y réfléchir, il faut essayer de comprendre ça. Moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné, ça. Que seule la relation, qui peut être pensée qu'idéativement, donc qui a une forme, nous donne ces deux orientations. Alors, nous continuons. Vous voyez, c'est important. De réfléchir et de pousser jusqu'au bout ce fait. Tout ça ne pourra se comprendre que lorsqu'on aura vraiment saisi métaphysiquement la relation, quantitativement la relation. Parce que le mode appréhension va jusque-là. Et peut-être, vous voyez, c'est la clé. Alors je vous dis ça encore pour y penser. C'est la clé de toute la phénoménologie moderne. Je crois. Le propre de la phénoménologie, du reste, de la dialectique aussi, puisque la phénoménologie n'est qu'une sorte de dialectique. C'est une dialectique à l'intérieur de la forme intentionnelle. C'est une dialectique. Le propre de la phénoménologie, c'est de faire que l'intelligence se donne à elle-même sa spécification grâce à son exercice. Or, n'est-ce pas le propre de la relation de se spécifier par son exercice? Ça aussi, c'est assez curieux. C'est une très grave question que je touche là, qu'il faudra toucher. Regardez, très très délicate. Tous les scolastiques se sont disputés là-dessus. Ce qui prouve que c'est une question extrêmement délicate. Est-ce que c'est le fondement qui spécifie la relation ou est-ce que c'est son exercice? Je crois que c'est les deux. Parce que je crois que c'est les deux. Et c'est une question très importante, vous voyez. Cet être étant tellement débile, peut-il avoir son caractère spécifique par lui-même? Ou l'a-t-il uniquement en fonction du fondement? Mais s'il l'a uniquement en fonction du fondement, vous voyez bien qu'il n'a plus de forme propre. Il n'a plus qu'un exercice. L'exercice des deux termes corrélatifs. Or, cet exercice a son caractère propre. Autre chose, l'exercice de l'universel, autre chose, l'exercice de l'amitié. Parce qu'il faut toujours, hein, quand vous pensez la relation, pensez toujours ces deux extrêmes. Relation de raison, universel, relation réelle, amour d'amitié. Donc, pensez toujours à ça, hein, quand vous pensez à la relation. Voyez, les deux ades, les deux termes corrélatifs. Les deux termes corrélatifs. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Un, le multiple. L'ami. L'ami. Les deux termes corrélatifs, c'est l'exercice de la relation. Mais qu'est-ce qui spécifie cette relation? Est-ce le fondement? Ou est-ce que la spécification ne peut pas se séparer de l'exercice? Et que la spécification est ultime dans l'exercice. Je ne plaide pas maintenant, on y reviendra. Parce que je voudrais que vous soyez alertés devant la relation. Et que vous posiez ces questions, que vous arriviez petit à petit à les découvrir. Je crois que c'est capital pour comprendre tout le point de vue de la dialectique, tout le point de vue de l'analogie. Saint Thomas affirme très clairement que la relation ne peut se fonder immédiatement, ne peut pas se fonder immédiatement sur la substance. Il nous dit ceci, ayant un essai très débile, donc c'est dans son commentaire de la physique, 3, et c'est le fameux commentaire de saint Thomas des prédicaments. Il faut que vous voyez ce texte-là, pour ceux qui s'intéressent aux prédicaments. Commentaire de la physique, livre 3, leçon première, l'édition Marietti, 280. Ayant un essai très débile, donc ayant un être très débile, puisqu'il consiste seulement à se rapporter à un autre, quia consistit tantum in hoc quod est ad aliud. C'est aberré. La relation doit se fonder sur un autre accident, car les accidents plus parfaits sont plus proches de la substance. Et c'est par leur intermédiaire que les autres accidents sont dans la substance. Ils sont. Débilité du relatif, de la relation. À la différence de la quantité, de la qualité qui demeure dans le sujet, la relation ne signifie pas quelque chose qui demeure dans le sujet. Mais la substance, c'est ce qui demeure dans la réalité. C'est la déesse qui demeure. Alors je veux dire, la relation, c'est la déesse qui sort toujours. Toute voile dehors. Tandis que la substance, elle demeure. La relation ne signifie pas quelque chose qui demeure dans le sujet, mais un certain passage vers un autre. Non significat ut in subjecto manens. Cet ut in transitu quodam, a dit Jud. C'est dans le De Potentia, ça. C'est très joli. C'est in transitu. La communication. Le transit. La relation, c'est le transit. Gare de triage. Et dans le De Potentia, saint Thomas dit, Adalicuit vero, non significatur, secundum rationem accedantis, non inim significatur, ut aliquid eius inquo est, sed ut ad id quod extra est. Donc, la relation c'est ad id quod extra est, vers cela qui est extra, vers cela qui est au-delà, en dehors. C'est l'extra, c'est le transitus. Ce sont ces expressions que saint Thomas apprend. C'est du reste pour cela que la relation comme telle n'implique aucune imperfection. Il n'y a aucune perfection. C'est la neutralité. Et la neutralité peut être le siège de l'anarchie. Comme ça peut être le siège d'autre chose. Mais c'est là aussi que réside la très grande difficulté que nous avons à saisir ce qu'est la relation. Aussi n'est-il pas étonnant que certains, considérant la manière très spéciale dont les relatifs signifient, leur modo significandi, et proclamer qu'ils n'inéraient pas à la substance. Ce que saint Thomas évidemment n'accepte pas, car pour lui, il faut distinguer les relations réelles des relations de raison. Donc certains iront à affirmer qu'il n'existe que des relations de raison. Étant donné son modo significandi. C'est saint Thomas qui dit ça. Il est clair qu'une telle distinction n'a pas lieu dans le cas des autres prédicaments, car selon leur raison propre, ils signifient quelque chose d'inhérent à quelque chose. La relation réelle existe dans la réalité qu'elle affecte comme dans son sujet ayant un fondement réel, tandis que la relation de raison n'a pas de fondement réel. Elle naît à partir de nos opérations vitales, à partir de nos opérations intellectuelles. L'universelle relation de raison naît à partir de nos connaissances. L'amour d'amitié naît à partir de notre amour. Donc c'est nous qui donnons l'être à ces relations. Lorsque le théologien, alors maintenant nous regardons saint Thomas, utilisant la relation en tant que théologien. Le théologien va utiliser les deux prédicaments, substance et relation, d'une manière toute spéciale. Dieu est substance. Et dans la Trinité, la relation va s'introduire. Oui, comme c'est curieux. Tout le traité du Deo Uno, tout le traité de Dieu dans son unité est fondé métaphysiquement sur la substance. Et tout le traité du Deo Trino, de la très sainte Trinité, est basé sur la relation. Les deux extrêmes, dans l'ordre de l'être. Et c'est pour ça que ne pourra se développer tout le traité de la Très Sainte Trinité que par les opérations vitales. Puisque la relation de raison naît dans les opérations vitales. Et la relation réelle aussi. Lorsque le théologien cherche à préciser comment Dieu existe, il se sert en premier lieu de la négation pour montrer combien Dieu est autre que les créatures que nous expérimentons. Il a recours aussi à la causalité et à la voie d'éminence. Il se sert donc de la relation. Car le mode de suréminence selon lequel les perfections des créatures se trouvent en Dieu ne peut être signifié que par la négation. Or, la négation est un être de raison. La relation, la négation, c'est une relation de raison. Dieu est infini, soit par sa relation aux autres, comme lorsqu'on le dit cause première ou souverain bien. Cependant, cette relation n'existe pas réellement en Dieu. Donc, la relation me permet d'exprimer la transcendance de Dieu. La relation de raison, ce qu'il y a de plus débile, me permet d'exprimer ce qu'il y a de plus transcendant. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est la relation de raison qui me permet d'exprimer la transcendance de Dieu. Par la négation et par la causalité. Le théologien explicite donc l'analyse d'Aristote en distinguant ce qu'est la relation comme accident réel, son mode d'inhérence, et ce qu'elle est considérée en elle-même dans sa raison d'ad aliquid. Et voici ce que dit saint Thomas. Ou De Potentia, question 7, article 9. Je prends le De Potentia, c'est un des livres les plus tardifs de la pensée de saint Thomas. Donc c'est le De Potentia où on voit toujours la pensée ultime de saint Thomas. C'est un livre extrêmement beau, le De Potentia. Lecture de vacances. Parce que c'est très rude, puis c'est pas traduit. Donc il faut faire les dents au point de vue du latin. La relation qui n'est autre que l'ordre d'une créature à une autre n'est pas la même chose en tant qu'elle est accident et en tant qu'elle est relation ou ordre. En effet, en tant qu'elle est accident, elle a d'être dans un sujet, mais non en tant qu'elle est relation ou ordre. Mais en tant que relation ou ordre, elle a seulement d'être ad eliud, passant pour ainsi dire en un autre, quasi in aliud transiens. Le transiens de l'être, c'est la relation. Le transiens, la transhumance. De l'être, c'est la relation. C'est très curieux. Quasi in aliud transiens. L'être qui passe dans un autre. Voyez, toutes les infidélités. Transiens ad aliud. Très, très curieux. Oui, fidélité et infidélité. La fidélité, c'est la relation enracinée dans un fondement réel. L'infidélité se fait par le transiens ad aliud. Vous commencez à loucher. Transiens ad aliud. C'est curieux, hein? Cela est particulièrement net lorsque saint Thomas traite de la très sainte Trinité, où saint Thomas insiste sur le fait que la raison spécifique du relatif consiste en ce qu'il se rapporte à un autre. Le relatif ou la relation se caractérise par le fait de se rapporter à, être vers, c'est abhéré ad, et c'est ad. C'est le respectus. Les choses qui sont dites ad aliud signifient, selon leur raison propre, le seul regard vers l'autre. Respectus ad aliud. Ou mieux, le ad, qui définit la relation. Relationes, donc les relations, cum hoc ipsum quod sunt, ad aliud dicuntur. La relation comme tel est dit ad. Donc c'est cette fameuse distinction que saint Thomas prend à Aristote de distinguer dans la relation le in et le ad. Le in, c'est la relation relative au sujet. Donc c'est l'exister de la relation. Le ad, c'est le transitus ad aliud. Ça ne veut pas dire que le ad soit toujours infidèle. Mais le ad donne la possibilité de l'infidélité. Vous voyez ? Alors, quand saint Thomas va transposer la relation dans le mystère de la très sainte Trinité. Évidemment, le in est catégorial. Le ad n'est pas catégorial. Le in demeure toujours au niveau de l'accident. Donc, ne peut pas s'attribuer à Dieu. Mais le ad peut s'attribuer à Dieu. Parce que le ad est séparé de le du in. Et donc il peut se séparer. Il est tourné vers respectus. Transiens. Très curieux. Et je vais donc attribuer à Dieu le ad pur. Et je dirais que la raison formelle de la personne en Dieu, de la raison de père, de la raison de fils, c'est la relation subsistance, subsistante en Dieu. Et cette chose curieuse, c'est le ad. À la paternité, la filiation, père et fils, ad subsistens, en Dieu. Donc un ad subsistens en Dieu exprime comment il peut y avoir en Dieu sans diviser la simplicité absolue de Dieu, deux personnes. C'est un tour de force au point de vue métaphysique. C'est extraordinaire. Il faut le penser. C'est la seule chose que l'intelligence humaine peut dire pour unir Trinité dans la simplicité. Le ad subsistant. grade qui plonge dans la simplicité, qui subsiste en Dieu. Le pur relatif. La personne divine, vous voyez, au point de vue, encore une fois, au point de vue théologique. Et le fondement, vous comprenez tout de suite, c'est la procession. Le Fils procède du Père. Et la procession fonde ce ad réel subsistant. Pas de raison. Il n'y a pas de relation raison à Dieu. Donc c'est un ad subsistant, fondé sur le point de vue de la procession divine. C'est extrêmement beau de voir comment le théologien